BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes évidemment dans De quoi je me mêle. On se retrouve chaque week-end, vous le savez, à la fois sur YouTube, sur 01net.com et puis sur BFM Business le dimanche matin et sur la chaîne 01 TV sur les box. Au menu de ce De quoi je me mêle, tout à l'heure, on reviendra sur cette annonce de Tim Cook. Alors, il a dit sans le dire, mais l'Apple Car serait dans les tuyaux. On en parlera avec un vrai spécialiste de la tech, de l'économie et du véhicule électrique. Il s'agit d'Emmanuel Torregano, qui est journaliste et qui est fondateur d'Electron Libre. Et il nous donnera son analyse sur ce podcast, d'ailleurs très intéressant, que Tim Cook a donné il y a quelques jours. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment réagir au contenu de quoi je me mêle avec le hashtag DQJMM, nous rejoindre sur la page Facebook. Vous savez tout. Merci d'être là et bienvenue. Et on commence donc par le club de la presse IT avec Nicolas Lelouch cette semaine. Salut Nicolas.
Salut François.
Et puis Raphaël Grabli qui nous fait l'amitié d'être là aussi. Bonjour Raphaël.
Salut François.
Journaliste à BFM Tech et Nico bien sûr à 01net.com. L'actu de cette semaine, et on va commencer par les casseroles de Facebook qui s'enchaînent. On commence à en avoir beaucoup, ça commence à faire beaucoup de bruit. Et la dernière en fait date de 2019 d'après ce que j'ai compris, hein. C'était une espèce d'immense faille qui a permis à des pirates de pomper des millions et des millions de données personnelles d'abonnés Facebook. Nicolas, il faut revenir peut-être quand même à cette histoire et pourquoi elle ressort aujourd'hui en fait.
Oui, on pourrait résumer cette faille à une sorte d'annuaire géant. On a mieux que les pages jaunes, on a Facebook puisque vous avez 530 millions compte Facebook dans la nature.
C'est génial en fait.
Oui, c'est assez, assez fou. Déjà, on rassure tout le monde là-dessus, c'est pas un piratage avec compte mot de passe, c'est-à-dire qu'on peut pas accéder à vos messages, on peut pas accéder à tout ça. Par contre, on a une sorte de tableur Excel géant avec plein de coordonnées dans lequel on trouve le nom, le prénom, le mail, le numéro de téléphone, le statut marital, donc plein de choses qui sont généralement confidentielles. Et tout ça, c'est dû en fait à une vulnérabilité qu'avait Facebook à l'époque, qui était, vous savez, cette fonction d'annuaire inversé. Oui. En l'occurrence, vous tapiez un numéro de téléphone dans le moteur de recherche Facebook ou dans Messenger et vous trouviez la personne à qui il appartenait. À l'époque, c'était quelque chose qui était vu plutôt cool, les gens aimaient bien. Et on ne sait pas trop pourquoi Facebook, du jour au lendemain, s'est décidé à suspendre cette fonction.
Oui, parce qu'il fallait bien être ami avec la personne pour avoir le numéro de téléphone, je pense.
Même pas à cette époque-là.
C'était pour tout le monde.
On rentrait un numéro de téléphone dans Messenger et on avait le nom qui apparaissait. Moi, pour tout vous dire, en tant que journaliste, j'utilisais cette fonction quand quelqu'un, que je ne connaissais pas le numéro, et trois quarts du temps, j'avais la personne. Donc je trouvais ça génial. Mais le problème de tout ça.
Toutes ces anciennes fiancées, notamment.
Exactement.
Non, mais et il y en a seulement 10% dans le fichier.
Hein. Il y a 10%, il y en a quelques-unes qui sont
sortis. Des
530 millions,
ouais. Ah oui, ça fait beaucoup quand même.
D'ailleurs, sur les 530 millions, il y a 20 millions de Français, c'est la moitié des utilisateurs de Facebook en France quand même. Donc c'est énorme, la France est un des pays les plus concernés. Donc pour revenir à cette fonction, Facebook, à peu près au même moment que les scandales Cambridge Analytica, avait dit qu'ils allaient la retirer, que l'annuaire inversé allait disparaître. Le problème, c'est que des fouineurs avaient déjà justement exploité cette vulnérabilité pour créer justement ce fichier géant et en revenant sur beaucoup de personnes. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec cette faille immense, avec 53 millions de comptes Facebook dans la nature.
Bon, Raphaël.
Alors en fait, ce qui est dingue, c'est qu'il y a deux failles. Il y a cette faille dont tu viens de parler d'annuaire inversé. Alors en théorie, Facebook a des outils pour détecter les bots parce qu'en fait, c'est... Il y a des petits malins en marketing ou pour de l'arnaque qui font ce qu'on appelle du scrapping. C'est-à-dire qu'en fait, ils créent un petit logiciel qui va tester tous les numéros de téléphone du monde. C'est par force brute, hein. Ils vont tester tous les numéros de téléphone qu'on peut imaginer. Bah forcément, dès qu'il y a un numéro de téléphone qui est associé à un compte Facebook, va le dire, il y a un compte associé. Le petit bot l'enregistre et on crée comme ça. Donc, on teste mécaniquement. Si, par exemple, pour la France, je teste 06, 00, 0, exact, etc. Et puis, je teste toutes les combinaisons possibles. Alors, en principe, Facebook a des outils pour empêcher ça. Apparemment, ces outils n'ont pas forcément fonctionné. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Et ça, ils l'ont dit d'ailleurs dans un post, dans une publication sur le blog. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'en fait, cette faille, enfin cette collecte date de 2019. Or, la fonction d'annuaire inversé a été supprimée en 2018. Donc, il y a un problème. Et en fait, ce qu'explique Facebook, c'est que c'est une manipulation liée à l'outil pour importer son carnet d'adresses, son répertoire. C'est-à-dire qu'en fait, quand je crée un compte Facebook, je scanne, souvent on a la petite notif, est-ce que Facebook peut accéder à son carnet d'adresses, à son répertoire ? Je dis oui, Facebook scanne mon numéro, il fait exactement la même opération, il regarde s'il y a des utilisateurs associés pour me suggérer mes premiers amis en fait. Et ce que dit Facebook, c'est qu'en fait, il y a, et alors effectivement, normalement c'est limité, pareil, pour pas qu'on puisse créer en fait, pour pas qu'on puisse créer un répertoire avec tous les numéros du monde et du coup collecter tout. Et le problème, c'est que a priori, ceux qui ont collecté ça ont réussi à contourner la sécurité de Facebook qui empêche cette collecte massive en se faisant passer pour une application Facebook. Et là, c'est hyper important parce que Facebook dit ce n'est pas une faille de sécurité, ce n'est pas un piratage. Et c'est faux. Ils mentent, en fait, qu'en fait, si, là, il y a une faille de sécurité, alors oui, ils ont raison, les numéros de téléphone ne sont pas des données qui viennent de Facebook, puisque c'est l'inverse, en fait. J'ai testé les numéros et Facebook m'a dit s'il y avait quelqu'un. Donc, techniquement, on n'a pas aspiré des numéros de téléphone. Mais en fait, on a demandé à 530 millions de reprises à Facebook, j'ai ce numéro, dis-moi si ça correspond à quelqu'un. Et pour faire ça, il y a une faille de sécurité qui a été exploitée. Et donc, Facebook joue sur les mots.
Bien sûr.
Et ils essaient, ils essaient un peu de nous enfumer. Voilà. Et à mon avis, ça peut leur faire très mal.
Ce qui est rigolo, c'est que même le compte de Mark Zuckerberg, visiblement,
et ce qui est amusant, c'est que du coup, on a pu avoir son numéro de téléphone personnel.
et qu'il a un compte Signal.
On s'est rendu compte qu'il avait un compte Signal qui est le concurrent, justement, de WhatsApp.
J'espère qu'il a été activé, parce qu'autrement, il doit avoir 2-3 appels en ce moment.
J'espère pour lui.
Et pour avoir, alors à titre en tant que journaliste, j'ai quand même récupéré les bases samedi soir. Moi, j'ai trouvé des noms de membres du gouvernement.
Bien sûr,
les numéros de téléphone.
Sur 20 millions d'abonnés Facebook, il y a forcément des gens connus, gens influents.
Mais Facebook, la position, ils vont essayer de jouer sur les mots en disant ce n'est pas un piratage, en fait, c'est du scrapping. Et les numéros ne viennent pas de chez nous. Par contre, il y a vraiment une faille de sécurité.
Et puis aussi, peut-être ce manque de délicatesse en
pas d'excuses.
Pas d'excuses. On n'informe pas.
Mais
à aucun moment, il y a eu une information. Vous avez été visé par une attaque, etc.
Mais parce qu'ils ne veulent pas dire que c'est une attaque. Parce que de toute façon, s'ils disent que c'est une attaque, alors là, c'est fini pour eux. Je veux dire, ils n'ont pas informé.
Tu crois ? Je suis même pas sûr.
Non, mais c'est fini. Je veux dire, ils vont se faire exploser par la CNIL, ils vont se prendre une amende monumentale. Donc ils ne peuvent pas, leur position, ils sont condamnés à la garder, et je trouve, enfin à mes yeux, c'est un mensonge.
On enchaîne avec un deuxième sujet, les cours à distance ont repris. Voilà, on rentre dans une période de quelques semaines de confinement où les enfants, avant de partir en vacances, se sont retrouvés cette semaine à l'école, à la maison, avec tout le bonheur que ça représente pour les parents. Mais ça, c'est un autre sujet. Cela dit, l'autre problème, Raphaël, et c'est un thème que tu connais bien parce que tu l'as beaucoup traité sur BFM TV, c'est les problèmes techniques qu'il y a eu et qui, visiblement, se sont poursuivis. À l'heure où on enregistre ce podcast, il y a encore des problèmes. Les cours à distance qui ne fonctionnent pas. Alors, pas partout, mais il y a eu des bugs.
Pas partout, oui, pas mal d'endroits quand même. En fait, il y a deux grands types de plateformes. Il y a d'abord ce qu'on appelle les ENT, les espaces numériques de travail. Mmh. C'est un peu la partie administrative qui permet de faire l'interface. C'est pas comme un Dropbox, mais c'est un endroit où le prof peut mettre à disposition des fichiers, etc.
Un cahier de texte,
l'agenda, pour les élèves. Ça a planté. Ça dépend des régions. Et ça, c'est clairement un sous-dimensionnement des serveurs. Les serveurs ont planté parce que tout le monde s'est connecté à 8h30 mardi matin, parce que lundi, c'était férié. Mm-hmm. Et puis, ça a planté. Le CNED, là, par contre, c'est national. Alors, pour les régions, il y en a qui ont mieux fonctionné que d'autres quand même. Mais par exemple, en Île-de-France, on arrivait sur l'ENT d'Île-de-France, on avait une file d'attente numérique, tout simplement. Et après, il y a le CNED, là c'est au niveau national, ça dépend du ministère de l'Éducation nationale, ça a complètement planté aussi, mais là, Jean-Michel Blanquer, donc le ministre de l'Éducation nationale, a expliqué que ça venait de cyberattaques. Alors au début, il a dit cyberattaques venant de l'étranger. En fait, c'est complètement faux, a priori, d'après les sources qu'on a pu avoir, il y a eu aussi d'autres confrères, consoeurs qui ont publié. A priori, il n'y a aucune trace d'attaque massive venant de l'étranger. Donc, a priori, ce n'est pas des Russes, des Nord-Coréens qui ont essayé de s'en prendre à nos amis de CM2, aux petits-enfants de CM2. Donc, non, ce n'est pas ça.
Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter.
Voilà, ils ont sûrement d'autres choses à faire.
Mais alors, qu'ils sont vraiment au bout du rouleau.
Et après, le CNED a dit oui, il y a des dizaines et des dizaines de cyberattaques. Mais des dizaines et des dizaines de cyberattaques, surtout en DDoS, c'est-à-dire avec du déni de service, ça peut aussi être des élèves. Aujourd'hui, on a des outils pour quelques euros, on fait une attaque DDoS.
Moi, je suis sûr que c'est ça.
Non, mais c'est ça. Donc, si ça se trouve, on va se retrouver. Alors, il y a quand même une enquête qui a été ouverte, il y a l'ANSI qui est sur le coup, mais enfin, si ça se trouve, on va se retrouver avec.
C'est
des petits malins qui ont fait cracher le CNED.
Voilà,
tout simplement.
Qui sont allés sur des sites et qui ont acheté des trucs.
Et donc, ils vont se faire ridiculiser. Et alors, Blanquer, en plus, est accusé OVH. En citant l'incendie de Strasbourg. Mais comme si OVH était... Alors en plus, les ENT, bon, il y en a qui sont chez OVH, mais il y en a plein qui ne sont pas chez OVH. Le CNED, c'est pas chez OVH du tout, d'ailleurs. D'après ce que je vois, c'est à peu près... c'est en partie, d'ailleurs, chez Amazon, chez AWS. Mm-hmm. Et je pense que OVH comme AWS, ils ont quand même des systèmes anti-DDoS qui sont assez performants.
J'imagine. D'ailleurs, Michel Pollin, le patron d'OVH, est monté au credo en disant écoutez,
c'est normal, il s'est fait attaquer assez violemment, donc il a répondu.
On conteste toutes les informations.
Donc après, est-ce qu'il y a aussi des problèmes chez OVH ? C'est possible, mais clairement, attaquer comme ça OVH, c'est quand même un peu n'importe quoi. Donc, en fait, la question, c'est pourquoi est-ce que Jean-Michel Blanquer a communiqué de cette façon-là, de façon étonnante ? Et puis, il faut quand même revenir sur un truc, c'est que tout ça pour 3 jours, pour 3 jours d'école à la maison, c'est ça qui est fou, parce
c'est ça
que lundi c'était férié, bon le mercredi c'est un peu à moitié on va dire,
oui, c'est
donc
vrai.
Pour mardi,
jeudi,
vendredi, après c'est les vacances.
Prochaine, c'est les vacances pendant
donc tout ça pour 3 jours, une polémique pour 3 jours d'école à la maison.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que cette semaine-là n'a pas été la plus efficiente en termes d'éducation. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Il y a dû avoir quelques difficultés, en effet, pour ceux qui passaient par les plateformes.
Mais de toute façon, moi, j'ai des profs beaucoup de profs m'ont contacté du coup sur Twitter, comme ils ont vu que j'en parlais sur BFM.
Ils sont
au bord
de la piscine.
Non. Ils sont pragmatiques. Ils m'ont dit du coup, on est sur WhatsApp, sur Discord et sur Zoom.
Évidemment. Voilà. Mais oui, d'autres outils. Il faut s'adapter.
Qui fonctionne.
Cela dit, il y en a combien de pourcentages qui s'adaptent ? C'est ça le souci. Est-ce que
ils ont quand même du bon sens et ils sont pragmatiques.
Nico, tu veux rajouter un truc là-dessus ? On a
non,
fait le tour.
Je trouve que ce que dit Raphaël est intéressant sur la fin, parce que il y a eu beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux de profs qui disent qu'ils avaient un petit peu anticipé ça et qu'ils ont fini sur des solutions américaines. Et je trouve que à vouloir toujours le patriotisme numérique, comme l'appellent certains membres du gouvernement, parfois on fait l'erreur de sous-dimensionner justement ce dont on a réellement besoin, et on se retrouve avec des solutions qui ne fonctionnent pas, et c'est assez navrant. On peut bien faire avec un système français, mais il ne faut pas le sous-estimer. C'était prévisible qu'il y allait avoir des millions de connexions.
J'ai l'impression qu'on invente la souveraineté du bug.
Oui, non mais c'est le bug français.
Non, mais c'est ça.
Mais ceci dit...
Et alors, c'est triste, hein.
Ceci dit, n'importe quelle plateforme, comme je disais, le CNED, ils sont en partie chez Amazon. Oui. Donc, c'est pas... En fait, le problème, c'est pas la nationalité. C'est plus arriver à 1 million à se connecter en même temps. Aucun serveur ne peut tenir la charge. Donc, soit on prévoit vachement en amont, en redimensionnant l'offre. Mais il y a un truc qu'on peut faire et qui est gratuit, Raphaël, c'est dire aux gens, ne vous connectez pas tous à 8h30.
Je veux bien tout
peut-être.
Ça, mais il y a des gens, des experts, des dizaines de milliers de fonctionnaires qui sont là-dedans et qui auraient pu anticiper ce truc-là.
Mais la question, elle est sûrement économique.
Macron
aussi,
a annoncé le confinement une semaine avant. Donc, ils avaient quand même du temps pour se mettre en place.
C'est pas comme si les cours à la maison étaient quelque chose de nouveau depuis un an.
Puis moi, les hébergeurs que j'ai contactés, ils m'ont quand même dit, bon, alors, ils se défendent, évidemment, ils m'ont quand même dit, ça fait 2 mois qu'on dit aux régions, aux départements, faites gaffe s'il y a encore l'école à la maison, il faut qu'on en discute pour prévoir une offre solide. Mais après, la question, c'est, comme je disais, c'est 3 jours. Combien est-ce qu'on va investir des millions pour 3 jours ? C'est ça la question.
Cela dit, on n'est plus à quelques millions près, je crois, aujourd'hui. C'est vrai qu'on vit une période aussi où il faut s'adapter, et j'aimerais pas être à la place du gouvernement avec tout ce qui se passe et tous les problèmes qu'il y a dans tous les sens, ça doit pas être
facile. Ils sont pas aidés par la communication aussi.
En plus. Et surtout par les conseillers qui disent un peu n'importe quoi aux porte-paroles qui, eux, s'expriment. Tim Cook, il parle rarement. Tim Cook, interviews sont très très rares et il y a quelques jours il a donné une interview en podcast, un podcast qu'on peut retrouver sur le New York Times, très intéressant, Parce que souvent, c'est un peu de la langue de bois,
ça
tourne autour du pot, on n'apprend pas grand-chose. Là, on apprend pas mal de trucs. Nico, tu commences et après, on donnera la parole à Raphaël.
Yes, donc oui, c'est une interview de Tim Cook au New York Times qui est, pour le coup, pas sur un sujet précis. D'habitude, Tim Cook aime parler sur un sujet précis. Il y a une actualité, il donne une interview à un média où il revient justement là-dessus en détail. Là, on a pu explorer plein de choses avec lui. Donc, ça a été assez intéressant parce que ça a été politique. On a notamment parlé de Donald Trump, de Joe Biden, de ce que ça signifie pour Apple, de l'ancien combat d'Apple contre le FBI il y a quelques années. On a aussi parlé de Facebook en disant que les nouvelles mesures, vous savez, qui vont permettre d'empêcher le tracking d'une application à une autre avec iOS 14.5, eh bien Facebook n'est pas particulièrement visé parce que Facebook n'est pas un concurrent pour Apple. C'était un petit tac parce que Zuckerberg disait qu'Apple était son principal concurrent aujourd'hui. Mais c'est là qu'on a été le plus intéressé. On a parlé de futurs produits, ce qui est assez rare chez Apple. Évidemment, vous vous doutez bien que quand on demande à Tim Cook quand est-ce que
alors,
les lunettes arrivent,
iPhone 13, il sera
exactement, il vous dit pas bon dans deux mois, est-ce que vous voulez les voir. Enfin, c'est...
Non,
ça, il a,
c'est pas bon.
Ça va pas là-dessus.
Ouais.
Mais
bon,
en
alors,
revanche,
c'est que, il est proche de la retraite, s'il dit ça.
Exactement. D'ailleurs, on en parlera de ça dans,
oui.
dans quelques minutes.
Oui.
Mais on lui a posé la question. Il y a des rumeurs comme quoi des lunettes vont arriver. Est-ce que c'est en juin? Est-ce que c'est le cas? Il a dit qu'il ne parlait pas de futurs produits qui pourraient ou ne pas être annoncés, jusque-là réponse classique, mais que selon lui, cette conversation qu'il avait avec la journaliste Kara Swisher du New York Times aurait été beaucoup plus intéressante si elle était enrichie d'images, de graphiques qui pouvaient apparaître justement pendant la discussion. Donc là, on a peut-être la première illustration de à quoi vont servir les Apple Glasses, ou peu importe comment Apple décidera de les nommer. Ça serait donc des appels téléphoniques qui vous permettront d'avoir des images dans votre vision et qui vous permettront du coup de voir justement une conversation enrichie. Comment ça marche? C'est une bonne question. Est-ce qu'il faudra utiliser son iPhone ou un autre appareil pour envoyer justement des images à son correspondant?
Oui, ou est-ce que ce sera une paire de lunettes autonomes finalement, avec tout à l'intérieur?
A priori, c'est ce que les rumeurs disent, ça sera tout à l'intérieur. Mais comment on fait pour choisir des graphiques? Je ne pense pas qu'on puisse le contrôler à la pensée. Donc c'est assez étonnant cet exemple-là, mais ça reste intéressant.
Avec Siri peut-être?
Enfin, peut-être.
On sait pas.
L'autre exemple, l'autre produit dont on a parlé, c'est l'Apple Car. Vous savez, Apple a déjà reconnu qu'il développait un logiciel de conduite autonome. Pour le coup, il ne s'en cache pas parce que de toute façon, les voitures circulent dans la Silicon Valley. Mais on lui a demandé à Tim Cook, mais finalement, est-ce que c'est cohérent pour Apple de sortir juste un logiciel alors que vous êtes le maître de l'intégration hardware et software? Et Tim Cook, voilà, là-dessus, il a été assez clair. Il a dit non, c'est vrai qu'on a toujours aimé tout intégrer ensemble. Donc on verra, il y a plein de projets qui peuvent être abandonnés au fur et à mesure. Donc sans confirmer l'Apple Car, il laisse entendre que Apple ne va pas juste faire un logiciel, mais aussi une voiture. Et enfin, dernière info, on lui a demandé qu'est-ce qu'il fera chez Apple dans 10 ans. Il a dit qu'il pense que dans 10 ans, il ne sera plus là. Donc il y aura certainement un successeur dans la décennie 2020.
C'est rare, hein, ces prises de parole de Tim Cook, Raphaël.
C'est rare. Après, moi, je me demande dans quelle mesure il veut un peu s'amuser aussi avec les rumeurs.
C'est possible.
Parce que, non, mais c'est vrai, il a répondu, c'est à la fois précis et un peu évasif. C'est vrai qu'il sait très bien répondre et sans répondre, mais enfin, c'est son métier aussi.
Son métier.
Hein.
Je pense qu'il faut un diplôme pour ça. Hein,
ah, faut être très bon. Ouais,
quelques heures de formation.
Les patrons et les RP américains sont très, très, très forts.
Excellent là-dedans, ouais.
Parce que c'est vrai que l'usage dont il parle sur les lunettes en réalité augmentée, on a du mal à l'imaginer. Je veux dire, Apple, c'est quand même du produit pour tout le monde. Je veux dire, enfin, évidemment, c'est cher, mais je veux dire, dans l'usage, c'est censé à chaque fois répondre à un besoin pour le plus grand nombre. Que ce soit l'iPhone, l'Apple Watch, le MacBook, les AirPods, Apple ne fait quasiment pas de produits de niche. Et Apple ne fait pas de produits B2B non plus. Et donc, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment. Alors, c'est un usage, soit c'est un usage qu'on n'a pas du tout anticipé, mais avec ce type d'usage, j'ai vraiment du mal à comprendre comment ça peut fonctionner. Et pour Apple, sortir des lunettes connectées ou en réalité augmentée, enfin, ça dépend ce que c'est, mais c'est quand même le risque de faire un flop parce que là, ce sera un usage très différent.
Raphaël,
est-ce qu'Apple prendrait le risque de faire un flop?
On parlera tout à l'heure avec Emmanuel Torregano de l'Apple Car, donc on ne va pas trop revenir là-dessus, mais je sais que tu as toujours été un petit peu dubitatif concernant cette annonce.
Hein, sur l'Apple Car,
ouais, ouais. On en a longuement parlé. Malgré tout, il y a des petits bouts d'infos quand même là. Enfin, je veux dire...
Il y a un projet en tout cas, ça c'est évident qu'il y a
quelque chose qui
se prépare.
Non mais, moi j'essaie de raisonner de façon un peu économique. Apple, comme tous les acteurs du numérique, savent que dans quelques années, sûrement qu'avec les voitures autonomes, si ça avance, on aura du temps de libre dans les voitures, et donc du temps qu'il faudra occuper. Et oui, Apple a envie d'occuper notre temps si un jour on se retrouve dans une voiture autonome. Donc là, c'est normal qu'ils développent des interfaces. Moi, la question, c'est développer une voiture. Quand on voit les marges d'Apple dans les différents produits qui sont des marges entre 30 et 40% sur des produits qui se vendent à des millions et des millions d'exemplaires, pourquoi est-ce qu'Apple va risquer d'aller vers un produit où les marges sont de 5-6% avec des investissements colossaux dans un métier qui n'est pas le sien,
une industrie totalement nouvelle
pour Apple, une industrie qui n'a rien à voir avec ce que fait Apple. J'ai vraiment beaucoup de mal. Alors les images qu'on voit, ça peut faire rêver, mais même si les ballons,
c'est du fake. Oui, si vous êtes avec nous à la télé, c'est vrai qu'on vous montre des images complètement surréalistes d'Apple
Car avec une voiture avec des ballons de foot à la place des pneus. Mais franchement, moi, je maintiens que je n'y crois pas une seconde. Voilà. Je pense par contre qu'Apple cherche à occuper le temps libre dans la voiture. Ça, c'est une évidence. Et le temps libre dans la voiture, d'ailleurs, ça commence par aussi l'audio avec les podcasts. Mmh. Évidemment, on peut penser à Apple TV+, parce que, évidemment, qu'on va regarder des séries. Évidemment que Apple Car, c'est très important. C'est une interface qui est menée à avoir un rôle de plus en plus important. C'est censé être la continuité. Mais qu'Apple, demain, développe un moteur de voiture, moi, j'y crois pas.
Deuxième partie de quoi je me mêle, qui sera dédiée à ça, on parlera de l'Apple Car, mais aussi de Tesla. Ce sera avec Emmanuel Torregano. Juste un mot sur les autres actus de cette semaine. On va parler du grand salon dédié aux jeux vidéo. C'est l'E3, vous le savez, hein, qui se déroule chaque année aux US en juin, en général. Cette année, il va se tenir, Nicolas, mais dans une forme qu'on peut attendre et dont on sait qu'elle sera pas forcément physique.
Ça sera virtuel, en effet. Déjà, c'est quand même une bonne nouvelle parce que l'année dernière, il n'y avait pas eu d'E3. Ouais. C'est-à-dire que l'E3 avait été décalé virtuellement et finalement, les constructeurs n'étaient pas intéressés, c'était compliqué. Donc,
et puis rappelons que c'était en pleine pandémie américaine où c'était une
catastrophe. C'était compliqué cette période.
Les US étaient à l'arrêt total. Hein, donc c'était presque indécent de faire l'E3. En fait.
D'autant plus que l'E3 est quand même boudé. Hein. Vous savez que Sony n'y va plus depuis quelques temps, que Nintendo a ses propres événements. Du coup, ça commençait à être un petit peu compliqué. L'année dernière, ça avait complètement sauté. Là, cette année, bonne nouvelle, ça revient. Et en plus, il y a de gros soutiens. Ce n'est pas juste une annonce de l'ESA, qui est l'association qui gère l'E3, qui dit on fait. Et ça sera du 12 au 15 juin, déjà précision importante. Et ce qu'on sait, c'est que Nintendo, Microsoft, Ubisoft, Capcom, Warner, Konami feront partie des marques présentes et qui vont faire des conférences pendant l'E3. Donc, à part Sony, à peu près tout le monde. EA aussi qui n'est pas là pour l'instant. Mais ça laisse entendre qu'on va avoir un vrai E3. Après, on peut quand même se demander quelle sera leur implication parce que vous savez, à l'E3, chaque constructeur, chaque éditeur a sa propre conférence. Donc en fait, s'il n'y a pas d'événement physique, ils servent à quoi? C'est tout le monde va sortir un truc en 3 jours, mais en réalité...
C'est un branding.
Ça va être un défilé de vidéos de présentation.
Oui, mais finalement, quand on est internaute et qu'on s'intéresse à ça,
ça reste un gros événement.
Moi, quand je veux voir les nouveaux jeux vidéo à l'E3, c'est sympa de voir l'ambiance, etc. Enfin, ce qu'on regarde au final, on va sur YouTube et on regarde une bande annonce.
Vous êtes déjà allé à l'E3 ou pas?
Moi, jamais. Pour ma part, jamais.
Moi, je l'ai fait une fois, mais l'ambiance qu'il y a.
Ça doit être exceptionnel.
C'est un truc.
Ça doit être sympa. Mais c'est vrai que.
C'est la Paris Games Week, mais fois 100.
Ça doit être très, très, très sympa.
C'est vraiment impressionnant. Et puis, les moyens qui sont mis en œuvre par les éditeurs, les constructeurs de consoles, etc.
On rentre dans le monde des jeux. Enfin, je veux dire, les images, moi, ça me fait rêver. Ça a l'air super sympa. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a un salon qui va bien en version virtuelle, c'est quand même l'E3, parce que c'est quand même avant tout une suite de bandes annonces.
Ça, c'est clair. Et toute la question qu'on peut se poser, c'est comment les démos vont être proposées aux médias, aux journalistes, aux testeurs. Il y avait une rumeur il y a quelques mois comme quoi l'E3 voulait proposer des démos au grand public pour la première fois. Donc ça serait que pendant les 3 jours, donc du 12 au 15 juin, c'est possible que sur le PlayStation Store, sur le Xbox Store, vous puissiez télécharger les jeux pendant 3 jours pour les essayer. Donc ça serait une grande première et pour le coup, tout le monde serait gagnant. Donc à voir s'ils arrivent à concrétiser ça.
Voilà, donc l'E3, et espérons qu'on puisse avoir des informations concernant la nouvelle Switch. Hein, ça serait cool.
Peut-être après tout, ça serait un bon endroit, mais c'est vrai que Nintendo aime bien jouer solo, donc est-ce qu'ils vont faire ça
On verra bien. Autre actu, c'est du côté de chez Google, Nicolas, le Pixel 6, évidemment, ne va pas arriver tout de suite, hein, il sera sans doute annoncé après la rentrée, en octobre, comme chaque année.
Oui.
Ce Pixel 6 qui aurait une particularité, visiblement, c'est les rumeurs qui traînent en ce moment sur le web.
Particularité assez étonnante puisque Google, qui est tout sauf un roi du smartphone aujourd'hui, ça reste des faibles parts de marché, aurait décidé d'abandonner les processeurs Qualcomm pour ses propres processeurs. Et ça, c'est assez étonnant parce qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a Apple qui fait ça, qui est devenu un expert en processeurs, Huawei qui a toujours eu aussi son unité distincte et Samsung qui souffre avec des Exynos, mais qui quand même, malgré tout, a ses propres puces.
Sauf aux US.
Exactement, qui ne l'utilisent pas partout quand même. Donc c'est la preuve que c'est pas non plus idéal d'avoir son propre processeur. Et là, a priori, Google aurait décidé de développer son propre système. Faut pas s'attendre non plus à une révolution, parce qu'au niveau de l'architecture, ils récupéraient en fait des cœurs ARM purs. Donc ça voudrait dire que les performances seront similaires à ce qu'on a sur du Snapdragon et qu'il y aura pas de vraie différence ou de vraie rupture. Et ce qu'on peut aussi imaginer, quand on voit le Pixel 5, vous savez, qui a abandonné un processeur haut de gamme pour justement le 765 milieu de gamme, c'est que Google ne va pas tenter de battre des records de puissance comme Huawei, Qualcomm et Apple, et va se contenter justement d'une puce optimisée à ses besoins, à savoir la photo, des performances milieu de gamme, l'autonomie, ce qui est un point fort du Pixel 5. Donc à voir ce que ça va donner, mais ça reste très intéressant de voir un géant comme Google se lancer sur ce marché, et ça laisse profiler quand même un avenir assez intéressant pour les puces ARM. On sait que tout le monde veut avoir ses propres processeurs, et que bah, pour Intel, c'est notamment assez compliqué.
Ouais, je suis très curieux de voir ça. Alors, tu dis qu'il n'y aura pas forcément de grosses surprises, mais enfin, finalement, les puces Apple, c'est de l'ARM aussi.
Oui, mais c'est les cœurs sont développés par Apple.
Ah oui, les cœurs sont développés par Apple, oui, c'est vrai.
Mais là, ce n'est pas le cas pour Google.
Ce qui a l'air de dire, c'est qu'ils vont utiliser le dernier gros cœur d'ARM, qui est le Core X1, aussi celui qu'on a d'ailleurs dans le dernier Exynos, parce que Samsung a fait le même choix, à savoir abandonner ses cœurs personnalisés et prendre des cœurs purs. Donc, on peut quand même imaginer que Google ne soit pas en très grosse rupture dans la première année.
Mais en tout cas, voir Google qui fait Android derrière et qui, voilà, c'est l'intégration un peu plus. Alors, on n'est pas encore au niveau d'Apple, mais moi, déjà, j'adore les Pixels. Je trouve que c'est les meilleurs smartphones Android, sincèrement. Et de voir qu'ils intègrent encore un peu plus, bah, moi, ça me plaît. Alors, j'espère qu'ils vont enfin gagner des parts de marché. Ah, en fait, ça apprendre à les fabriquer et apprendre à les vendre, surtout. Ça pourrait être vraiment très intéressant, je trouve.
On est d'accord. Eh bien, très bien. Voilà l'actu de la semaine, commentée avec brio par Nicolas Lelouch de la rédaction de 01net.com. Merci, Nicolas.
De rien, avec plaisir.
Et merci à Raphaël Grappi.
Avec plaisir.
BFM Tech. Je vous rappelle aussi que si vous êtes un fan d'actu tech, j'ai le plaisir de vous retrouver tous les soirs dans Tech & Co, hein, sur BFM Business, de 20h à 22h en direct. Quasi 2 heures donc d'actu tech avec Nicolas, qui est de temps en temps aussi avec moi, et puis Raphaël Grappi, bien entendu. Vous restez avec nous. L'Apple Car, donc, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? On va en parler avec un spécialiste, Emmanuel Torregano, qui creuse le sujet pour nous. C'est dans un instant, à tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV. BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Autour de quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech. Vous le savez, on est là chaque week-end à la fois sur la chaîne 01 TV, sur les box, sur YouTube, sur 01net.com et sur BFM Business le dimanche matin à la radio, à la télé. Merci en tout cas d'être là. Pour notre deuxième partie, on va revenir sur l'actualité brûlante de cette semaine et la déclaration de Tim Cook. Comme ça, entre le fromage et le dessert, Tim Cook qui balance que ce projet de véhicule électrique Apple, donc l'Apple Car, serait sur les rails. Alors il dit, nous étudions de nombreuses possibilités en interne, certaines possibilités ne verront pas le jour, mais je ne dis pas qu'aucune ne sortira. Alors là, pour souffler le chaud et le froid, les amis, autant vous dire que ici, dans De Quoi Je Me Mêle, ça nous excite un petit peu, et pour en parler, il fallait trouver encore plus excité que nous, et on l'a trouvé, c'est Emmanuel Torregano. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Je suis très heureux de te retrouver.
C'est gentil, moi aussi.
Journaliste, évidemment, depuis de nombreuses années, fondateur d'Electron Libre.
Oui, tout à fait, maintenant fondateur, on peut dire.
Voilà, site donc payant, hein. Il faut s'abonner pour accéder à Electron Libre, mais on a une actu, on va dire, premium, comme on dit, liée à la tech, à l'écho, etc., et aux médias, notamment. Alors voilà, cette interview du New York Times, nous rend complètement fous. Tim Cook confirme donc le projet de voiture électrique et autonome d'Apple. Alors, est-ce que déjà on peut le croire, Tim Cook? Est-ce qu'il dit pas ça un petit peu pour brouiller les pistes, Emmanuel?
Il y avait quand même beaucoup de rumeurs, il y avait beaucoup de fumée, il y avait certainement un feu quelque part.
Ouais.
Il y avait en effet eu, vous savez, les déclarations de Hyundai, certains constructeurs avaient dit « on discute bien avec Apple à propos d'une Apple Car », c'est comme ça qu'on l'appellera.
Et puis d'un coup...
Non, ça, c'était un peu passé tout
voilà,
ça.
Ils ont démenti, parce que je pense qu'ils ont dû se faire taper les doigts.
Voilà, ils n'avaient pas compris que quand on discute justement avec Apple, si jamais ils avaient discuté avec Apple,
il faut pas
surtout
discuter
on en parle
dans les
jamais.
Médias. Voilà, c'est ça.
Voilà, c'est la première règle. Je pensais que tout le monde le savait d'ailleurs, mais eux, visiblement, l'ignoraient. Ou alors, Là encore, c'était un calcul de leur part. C'est une manière de bien faire parler de Hyundai, ce qui est quand même... Vous discutez avec la première entreprise mondiale, c'est pas mal. Bref, donc il y avait quand même beaucoup de fumée et certainement quelques feux allumés par-ci par-là. Mais pour la première fois, Tim Cook, qu'on peut croire, c'est quand même le PDG, accepte de dire que oui, il travaille sur un projet qui pourrait ressembler à l'Apple Car. Il va même un peu plus loin dans cette interview, donc c'est un podcast du New York Times qui est vraiment très intéressant.
Qui est disponible, alors
qui est disponible, c'est vraiment très intéressant. Je ne fais pas de publicité pour le New York Times, mais c'est un très bon podcast. Et il dit même que si jamais ils envisageaient un tel projet commercialement, parce que évidemment, comme toutes les entreprises de high-tech, Apple teste énormément de choses. Ils travaillent sur des tas de directions différentes, l'Apple Car en étant une parmi d'autres. Et certainement que les autres gros acteurs de la tech, Google, on le sait, puisqu'ils ont sorti une voiture, mais Microsoft également, ou Amazon, travaillent également sur, dans ces pistes-là. Ils regardent, c'est logique. Mais là, il va même plus loin, puisqu'il dit « Nous, on ne fait pas les choses autrement qu'en accordant le software et le hardware. » Et ça, c'est vraiment très important, parce que ça voudrait dire que...
C'est la religion d'Apple, d'ailleurs.
Ah oui, c'est la religion d'Apple, on le voit aujourd'hui, puisqu'ils fabriquent même les... ils conçoivent, puisque ce n'est pas eux qui les fabriquent ensuite, mais ils conçoivent les processeurs de ces Mac portables, c'est quand même très important. Ça veut dire qu'ils vont jusqu'au bout de leur philosophie. Ils veulent maîtriser 100% du produit, le hardware, le software. Ça serait la même chose, donc, pour la voiture. On aurait droit à une voiture qui ne serait pas... l'assemblage entre une plateforme, comme l'on dit, c'est-à-dire un essieu, une batterie, des moteurs venant d'un constructeur X, comme beaucoup le font aujourd'hui. Mais ça serait bien une construction de A à Z, un peu comme on retrouve chez un autre acteur américain de la voiture électrique,
qu'on va évoquer dans un instant.
Mais ça serait bien, en effet, le grand combat entre Godzilla et King Kong, d'une certaine manière, si jamais Apple sortait son Apple Car, c'est-à-dire une voiture totalement intégrée avec le software que Tim Cook... Et d'ailleurs, il a été encore un peu plus loin. C'est pour ça que tout le monde se pose la question, se dire, mais quand même, il ne dit pas ça par hasard, puisqu'il explique bien que sa conception à lui d'une voiture autonome, puisqu'on parle de voiture autonome sur les voitures électriques de cette génération-là, c'est comme un robot. C'est une voiture qui décide si on peut aller, quelle décision il faut prendre, quelle action il faut faire pour aller d'un point A à un point B sans forcément une intervention du pilote, ou en tout cas du conducteur. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir qu'il... il déroule d'une certaine manière une sorte de roadmap de ce que devrait être le véhicule autonome d'Apple.
Est-ce que c'est une bonne idée, à ton avis, pour le patron d'Apple, Tim Cook, qui a dit d'ailleurs en aparté qu'il ne resterait pas encore 10 ans à la tête d'Apple, hein. Bon, après, on ne sait jamais ce qu'il...
À mon avis, c'est très fatigant comme job.
C'est très fatigant.
Même si c'est très bien payé.
Alors, évidemment, mais je pense qu'il pourrait déjà s'arrêter, s'acheter une île déserte.
C'est plus la question, à mon avis, non plus. Mais c'est vrai que c'est, à mon avis, très, très fatigant.
Très fatigant, bien sûr. Et puis, il n'est plus tout, tout jeune, hein, Tim Cook. Je ne sais pas quel âge il a, mais bon, il
n'est plus non plus.
La soixantaine, facile.
C'est ça.
Est-ce que c'est une bonne idée d'investir des milliards? Parce que là, c'est des sommes. On ne construit pas une voiture comme un smartphone. C'est-à-dire qu'il faut tout réinventer. Là, et pour fabriquer une voiture, bah, il faut de l'acier, il faut de nouveaux matériaux qu'Apple n'a pas l'habitude d'avoir, il faut sourcer de nouveaux fournisseurs. Enfin, c'est un autre métier. Est-ce que c'est une bonne idée, à ton avis, de se dire, bah, tiens, dans 10 ans, 15 ans, 10 ans, allez, peut-être même moins, Apple, leur nouveau business, c'est la voiture. Est-ce que c'est pertinent, à ton avis?
Alors, c'est même plus que pertinent. La logique même de l'intégration de ce qu'Apple fait, ou d'autres d'ailleurs grandes sociétés des nouvelles technologies, ce que je citais tout à l'heure, Google, Amazon, Microsoft, la logique même, c'est de porter leur savoir-faire d'intégration hard-soft sur d'autres appareils. Et le premier appareil grand public, en dehors du smartphone ou du Wear OS, c'est-à-dire les montres ou les choses comme ça, c'est la voiture. Donc c'est... finalement, la perspective logique du développement de ces sociétés-là. Mais, là où je te rejoins totalement, c'est un tout autre métier. C'est un tout autre monde qu'ils ne connaissent pas, sur lequel ils manquent énormément de compétences, c'est-à-dire simplement faire une voiture. Et faire une voiture, c'est des choses très compliquées.
Bien sûr.
D'ailleurs, pour en parler, lorsque Tesla lance son premier modèle, le Roadster, ils utilisent une base d'une autre voiture. On ne va pas citer toutes les marques, mais bon, grosso modo, ils utilisent une base d'une autre voiture. Et Musk lui-même, le patron de Tesla, a dit que c'était une erreur. On aurait dû travailler directement sur notre...
D'une
page blanche, et dire, voilà, bah, notre essieu, il est comme ça, les points de fixation des amortisseurs, les moteurs, toutes ces choses-là, la combinaison avec la batterie, on aurait dû le faire ensemble. Et les premiers donc les premières versions, c'était une sorte d'hybride entre une voiture qui existait déjà avec son essieu et le package Tesla qu'on a rajouté dessus. Et c'était une erreur. Donc, quand Apple dit on veut le faire de A à Z, ou en tout cas suggère que s'il devait entreprendre une telle aventure, ça serait de A à Z, il faut en effet qu'il se réinvente, littéralement. Mais, évidemment, ça en vaut la peine, très très largement. C'est un marché énorme, considérable, le marché de la voiture.
Emmanuel,
c'est plusieurs centaines de milliards de dollars.
Je suis d'accord, mais on ne vend pas autant de smartphones que de voitures.
Non, mais ça vaut beaucoup plus cher.
Et puis, on sait aujourd'hui qu'on vit dans un monde où il y aura de moins en moins de véhicules personnels. C'est la règle.
Moi, je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, la voiture autonome, ou en tout cas le véhicule, les nouvelles mobilités, appelons ça comme ça, les nouvelles mobilités globales, c'est-à-dire celles qui vont associer l'intelligence artificielle et l'électricité, puisqu'on sort littéralement
du thermique. Hein, ça, c'est
voyons
clair.
Les perspectives à 2030-2035. Le marché du thermique n'est pas minoritaire, mais enfin, il est bien amoché par rapport à l'électrique. Donc, ces nouvelles mobilités-là, c'est la multiplication des usages des véhicules. Après, est-ce qu'elles seront propriété des uns ou des autres? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura plus de coopératives d'utilisation de véhicules? C'est très possible, j'en sais rien.
On parle d'autopartage beaucoup.
Oui, d'autopartage, tous ces concepts-là.
Et puis
sont,
peut-être
sont évidents, il y aura énormément plus de véhicules différents pour différentes choses parce qu'ils seront autonomes. L'autonomie de la voiture, c'est.
Mais tu penses qu'on aura chacun sa voiture?
Je ne peux pas faire de perspective là-dessus.
Alors qu'on est plutôt dans des logiques de service, tu vois, par abonnement, pour aller...
C'est très possible. Là-dessus,
euros,
moi, je ne peux pas prendre...
On aurait accès à une multimodalité, ça, c'est vraiment la grosse tendance. Donc, non, en fait, la question que je me pose, c'est que c'est un marché qui va se transformer.
Oui.
À mon avis, il y aura moins de véhicules personnels. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est, au niveau business, quelque chose d'important et d'intéressant pour Apple? Est-ce qu'ils vont gagner autant d'argent qu'avec les iPhones? Je ne suis pas sûr. Hein.
Moi, je pense qu'ils en gagneront même plus. Si on regarde... En fait, le vrai problème, ce n'est pas le chiffre d'affaires qu'ils pourraient réaliser sur la voiture. Et ça, ça a été relativement estimé par les cabinets d'analyse. C'est-à-dire que si vous prenez 5%, on va dire, à terme, d'un marché de la voiture, vous faites énormément d'argent, parce que c'est des marchés...
Non, on ne fait pas 30% de marge sur une voiture.
Eh bien, voilà. C'est toute la question est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle Apple, c'est un modèle de marge forte parce que réinvestissement dans la R&D, dans la recherche et développement. Est-ce qu'on peut faire la même chose sur la voiture? Tesla s'est endetté énormément pour faire ça. C'est-à-dire que tout l'argent qu'ils ont gagné était réinvesti systématiquement dans la R&D. Là, ils commencent à montrer depuis 4 trimestres, je crois, le cinquième doit tomber bientôt, qu'ils sont capables de sortir une marge, mais c'est une marge faible. Et ils n'ont pas eu encore, évidemment, de retour sur investissement global pour la société. Est-ce que Apple, qui est installé sur les plus grosses marges
sur un trésor
secteur,
de guerre de plusieurs centaines de milliards de dollars aussi, accessoirement,
qui est autre chose, qui est aussi lié aux revenus offshore, internationaux. Mmh. Mais la question, c'est est-ce qu'en effet, le modèle Apple peut switcher, on va dire, peut dévier vers un monde dans lequel, en effet, les marges sont moins importantes, voire même quasi nulles. Voire, ou alors, dans ces cas-là, à contrario, Apple est capable, et là, ça serait une véritable révolution, de faire des voitures électriques et de gagner une marge considérable.
Après, il y a les services. On peut imaginer qu'en achetant une voiture Apple, on ait des abonnements. On sait qu'aujourd'hui, c'est une part de plus en plus importante dans le chiffre d'affaires d'Apple. Hein. Les services, le cloud, la musique, la vidéo. Peut-être demain, ils récupéreront le modèle économique de Tesla qui vend des options après avoir acheté la voiture. Donc, c'est vrai que ça aussi, c'est des business
qui
peuvent être assez fructueux.
C'est pour ça que je dis qu'on est sur une perspective relativement similaire à ce qui se passe sur le monde du smartphone ou de l'ordinateur. Il y a en effet toute une panoplie de services que vous pouvez vendre, l'autonomie du véhicule, toutes ces choses-là, les mises à jour même peut-être, même si elles sont gratuites pour l'instant. Et d'ailleurs, Tesla veut rendre ça également par abonnement. Aujourd'hui, on achète un package... 10 000 dollars à peu près, selon le niveau de ce qu'on veut.
L'option d'autonomie d'autopilote, on peut la louer aussi. On va pouvoir la louer.
C'est pas encore fait, mais en effet, ils ont évoqué la possibilité d'avoir une souscription mensuelle, on va dire.
Ce qui
serait génial, parce que ça démocratiserait énormément ce type de fonctionnalité, et dont on sait aujourd'hui quels sont... les chiffres sont très étonnants, mais c'est... Les véhicules autonomes sont beaucoup, beaucoup plus sûrs que les véhicules non autonomes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une politique sérieuse de la sécurité routière devrait être d'accélérer sur les véhicules autonomes parce que c'est une garantie de sécurité.
Alors, on va revenir à ce podcast de Tim Cook qui est très intéressant, tu le disais, et Tim Cook parle de Tesla.
Ouais.
Et dit, Tesla a fait un travail incroyable, pas seulement en menant, mais en conservant son avance pendant si longtemps dans le secteur de l'électrique. J'ai
là,
donc une réelle admiration pour eux.
Mais là, il est assez sympa, parce que le secteur électrique, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était que Tesla. Donc oui, c'est vrai qu'ils ont conservé leur part de marché, je ne sais plus, aux États-Unis, je crois que c'est un peu plus de 60%, ce qui est considérable. 2020, je crois que c'est le chiffre 2020, c'est un peu plus de 60% des véhicules électriques, avec une écrasante majorité de Tesla 3, notamment.
Mais alors, à la question...
Mais on ne peut pas dire que les concurrents étaient vraiment là non plus.
Est-ce que Apple pourrait racheter Tesla ?
Non, c'est trop cher aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est trop cher.
Ouais, ça, il aurait fallu l'acheter avant.
Mais quand Elon Musk, juste avant de sortir la Model 3, où il était dans la mouise jusque-là, il aurait gratté à la porte de Tim Cook, qui n'aurait même pas voulu le recevoir, en tout cas, c'est des rumeurs.
Oui, c'est ce que dit Cook, il ne lui a jamais parlé.
C'est dingue,
ouais,
quand
c'est
même.
Incroyable.
Là, à ce moment-là, il y aurait eu un sacré coup à faire pour Apple, il y a 3 ans.
Alors, alors, d'abord, il y avait des problèmes politiques. Beaucoup de gens voyaient à cette époque-là déjà, notamment la disparition de Steve Jobs, que l'héritier naturel, c'était Elon Musk. Et qu'il fallait qu'Elon vienne dans la société.
Mmh. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu
ça. Petit à petit, prenne la place. Ouais. Vous voyez, Tim Cook était un peu embêté dans cette histoire-là. Donc, il y avait à la fois un versant politique de toute cette histoire. C'est est-ce que je fais rentrer le loup dans la bergerie ?
C'est ça.
Mon principal futur concurrent, le type qui vit comme Steve Jobs vivait à cette époque, c'est-à-dire illuminé par une idée, ce qui est quelque chose de particulier.
Ou illuminé tout court, d'ailleurs, aussi.
Et parfois illuminé tout court. Il suffit de suivre son compte Twitter. Mais en même temps, sans passion, pas de grande chose, comme disait Nietzsche. Et donc, il y a ça d'un côté. Et de l'autre côté, Apple... À cette époque-là, je pense, en tout cas c'est ce qui semble se dire, n'était pas vraiment certain, ce que tu disais tout à l'heure, que ce marché de la voiture automobile était vraiment pour eux. Beaucoup d'incertitudes à cette époque-là. Tesla, à cette époque, les cabinets d'analyse disaient « Tesla, c'est jamais rentable ». Ils expliquaient que...
Et on tirait à bout les rouges sur Elon Musk.
Et les cabinets d'analyse, les grands cabinets d'analyse, Goldman Sachs, toutes ces choses-là, faisaient des études pour expliquer en quoi Tesla ne serait jamais rentable de son existence. En disant, on a trituré les chiffres dans tous les sens, ça ne peut pas marcher. La réalité a prouvé que ce n'était pas tout à fait juste.
Merci des analyses.
Ouais, ça arrive souvent, ça. Mais bon, c'est une autre question. Pour Apple, la question était, est-ce qu'on va aller sur ce marché qui, comme tu dis, alors que c'est une société qui fait énormément de marge, ne sera peut-être jamais rentable. Donc, acheter une boîte qui était un canard boiteux à cette époque-là,
ouais,
et qui était déjà très cher,
ouais.
C'était pas forcément une très très bonne idée. Et puis, encore une fois, Apple a tellement de moyens financiers. Est-ce que ça valait vraiment la peine d'acheter Tesla à ce moment-là,
ou de créer sa propre entité.
Je me lance, je mets 50 milliards, de manière pour moi, c'est rien du tout.
Finalement, c'est pas grand-chose.
C'est un demi-trimestre. Donc je mets ça.
Je mets un demi-trimestre.
Donc je mets un demi-trimestre.
Ça me fait plaisir, c'est pour moi.
Hein. Voilà.
C'est incroyable.
Non, passez pas par la compta, vous n'avez même pas besoin de
prendre
un chèque.
Donc, les valises vous attendent là.
Donc c'était. Est-ce qu'ils avaient les moyens de faire ça ? Donc c'était le projet Titan à cette époque-là. Aujourd'hui, je crois qu'il a été arrêté parce qu'il ne s'appelle plus comme ça. Donc, ils ont dû changer leur manière de faire ou d'appréhender ce marché à ce moment-là. Est-ce que ça valait la peine ou est-ce qu'il fallait mettre de l'argent eux-mêmes ? Je pense qu'ils ont choisi de mettre de l'argent eux-mêmes. Et à mon avis, c'était une erreur. Il fallait acheter Tesla.
Alors, juste une dernière petite question sur Apple, après on passera à Tesla, que tu connais bien. Foxconn est le partenaire industriel d'Apple depuis des années et des
années.
C'est
l'un des partenaires, oui.
Ouais.
C'est le gros assembleur.
C'est un gros partenaire.
C'est un gros partenaire. Il y en a plusieurs, mais c'est celui qui, en majorité, assemble les iPhones.
Est-ce que, demain, Foxconn pourrait être le futur assembleur de l'Apple Car ?
Je crois qu'ils le veulent, non ?
Mais est-ce qu'ils ont l'expertise pour le faire ?
Non, aujourd'hui, ils ne l'ont pas, mais
Je crois qu'ils fabriquent déjà des voitures électriques, mais bon, c'est à la marge.
C'est à la marge. En tout cas, Foxconn, il faut se rendre compte, en Chine, c'est une société absolument énorme, c'est considérable, même si elle est tributaire d'Apple sur une grande partie de son chiffre d'affaires, parce que c'est le premier assembleur d'iPhone.
Et parce qu'ils fabriquent quoi, 100 000 iPhones par jour.
C'est incroyable.
C'est monstrueux.
Énormément de gens qui travaillent. Ils ont été d'ailleurs très décriés au départ. Parce
bien sûr, les conditions de travail.
Les conditions de travail étaient en effet très limites. Mais enfin, c'est la Chine. Donc voilà. Mais ça s'est beaucoup amélioré, paraît-il. Bref.
Sans doute à cause de Tim Cook. Ou grâce à Tim Cook.
Oui, Apple en effet, ils ont fait des guidances très précises sur comment on devait travailler avec eux, tout ça, sous la pression en effet des associations. Et c'est très bien.
Oui, donc on disait, est-ce que Foxconn donc peut Foxconn, être le futur assembleur?
Ils regardent ce marché-là, ils en parlent régulièrement. Le patron de Foxconn, très régulièrement, fait des annonces sur la voiture électrique, notamment parce qu'en Chine, c'est un marché extrêmement évolutif, extrêmement rapide. Il y a beaucoup de co-entreprises qui se créent entre différentes sociétés des nouvelles technologies, Xiaomi, Baidu, toutes ces choses-là.
Tout ça qui est accéléré par l'impulsion du gouvernement chinois qui dit « Attendez les gars, vous savez quoi? Bientôt, le thermique, ça va être fini. »
Tout à fait.
Et là-bas, ça rigole pas.
Et ils l'ont dit très tôt, ils l'ont dit fin des années 2010, vers 2013-2014, ils ont annoncé qu'à telle date, je ne sais plus exactement, 2035, je crois, un truc comme ça, on pourrait retrouver, c'est fini, il n'y aurait plus de thermique, enfin en tout cas produite.
Oui,
donc il fallait passer directement à l'électrique. Et donc ça a été un véritable boom. C'est-à-dire que tout le monde s'est mis, toutes ces boîtes-là qui ont énormément d'argent, notamment de l'argent de l'État, pour certaines, puisque c'est quand même du capitalisme d'État, hein, la Chine, ont investi très fortement, et des sociétés qui ne faisaient absolument pas du tout ça, et qui se sont mis tout d'un coup à se dire « mais moi je fais de la batterie, je fais de la voiture électrique », et ils s'unissent tous les uns les autres, il y a énormément de mariages, ça
Dernière
se voit.
Dernière date, Xiaomi, hein,
Xiaomi
qui a
voilà.
cette semaine qu'ils allaient lancer une voiture électrique.
Qu'ils allaient aussi, donc ils faisaient des partenariats pour faire des voitures électriques. Vous avez l'un des plus gros constructeurs chinois qui s'appelle Geely, qui a déjà sorti 3 ou 4 marques de voitures électriques.
Geely,
en faisant...
il s'appelle.
Ouais, G-E-E-L-Y.
Ah oui, d'accord.
Et ils ont fait des partenariats avec plein de sociétés, eux aussi, pour pouvoir lancer des marques, directement des marques.
D'accord.
Comme on a fait un peu dans la voiture thermique avec Infiniti ou des choses comme ça, des marques de voitures électriques. Donc, ce marché-là est en pleine ébullition. Foxconn veut en faire partie, c'est-à-dire qu'ils veulent être sur leur marché local. Mais si jamais Apple, un jour, vient avec les plans d'une voiture électrique en me disant « Est-ce que vous pourriez nous assembler ça ?» Je ne sais pas combien de véhicules. Eh bien, il faudrait qu'ils le fassent. Le vrai problème, c'est la batterie.
Emmanuel, et les autres alors? Parce qu'on parle de Tesla, on parle d'Apple. Alors,
on n'a pas encore beaucoup parlé de Tesla.
Oui, 7 minutes. Il nous reste 7 minutes, on va y venir. Mais juste, est-ce que ça veut dire que dans 10 ans, il y aura, dans le cimetière des constructeurs automobiles, beaucoup de cercueils, à ton
avis? Alors, moi, je ne peux pas faire de prédiction, mais les augures ne sont pas très favorables. C'est assez simple. En fait, si vous appliquez le modèle de ce qui s'est passé sur le smartphone, eh bien...
Tu veux dire par là que les
Motorola, les Intel, ils ont disparu.
Les Ford, les Volkswagen, les Nokia, les Motorola, les BlackBerry, il y a quelques années?
En fait, c'est assez...
C'est vache, ce que tu dis, quand même.
Voilà, je reprends les choses autrement. En fait, vous avez une société qui a énormément d'avance, c'est Tesla. Pourquoi elle a énormément d'avance? Parce qu'elle a un outil de production que les autres n'ont pas. Elle est capable de produire des voitures électriques avec...
Et puis elle a pensé l'électrique dès le départ.
Elle a pensé même l'intégralité du système dès le départ. Mmh. Le système de recharge, les usines pour les produire et la voiture, simplement. Voire même le système de vente avec le fait que vous alliez sur le site internet.
Puis la philosophie de mettre à jour des voitures comme ça.
Voilà, et ils ont vraiment pensé le produit abouti comme l'iPhone a été pensé quand Apple le sort, même si l'App Store par exemple arrive un peu après, mais quand Apple sort l'iPhone, ils pensent le produit de A à Z. Et c'est ce produit-là qu'on a aujourd'hui, 10 ans après, plus même, 13 ans après, mais qui a été mis à jour régulièrement, qui a été affiné, mais finalement, la philosophie du produit est la même. La philosophie de la voiture électrique pensée par Tesla il y a 10 ans, elle est la même aujourd'hui. Et cette avance que Tesla a pris de 10 ans, personne aujourd'hui n'est capable de les rattraper parce qu'il faut construire des usines. C'est très difficile de construire des usines. Il faut nouer des partenariats avec des fournisseurs pour les batteries, pour toutes ces choses-là. Ça aussi, ça prend du temps parce que il faut aussi mettre la capacité du monde à créer de la ressource pour faire ces batteries-là. La batterie, c'est un vrai problème dans la voiture électrique. Aujourd'hui, Tesla est de loin celui qui est le plus en avance sur la construction des voitures. On dit que Tesla vend très peu de voitures par rapport aux autres constructeurs, par rapport à Toyota, Volkswagen.
500 000 en 2020. Hein.
Voilà, 500 000 en 2020.
Ce qui est ridicule par rapport aux géants de l'automobile.
Voire même par rapport à Audi ou BMW qui font énormément, qui livrent des millions de véhicules.
Millions, bien sûr.
Sauf que la réalité, c'est que Tesla est en avance sur tous les critères de la voiture du futur. Parce qu'ils ont l'outil de production. Parce qu'en réalité, ce qu'il faudrait regarder aujourd'hui, c'est combien de voitures purement électriques vend Tesla et les autres. Eh bien, Tesla est très en avance. Donc, c'est l'inverse. En réalité, sur le marché du futur, Tesla est devant.
Les taux qui va se resserrer sur le thermique, naturellement, Tesla va vendre plus de voitures parce que on aura de moins en moins le choix d'acheter des voitures thermiques.
Parce qu'ils sont prêts.
Mais d'un côté, on voit que Volkswagen accélère sur l'électrique, ils mettent des milliards sur la table.
Ils mettent pas tant de milliards que ça.
Alors c'est vrai que l'ID3, pour l'instant, c'est pas un super succès, hein.
Non, je pense qu'on est vraiment face à des sociétés qui, comme à l'époque d'Apple, enfin de l'iPhone, disent qu'ils sortent un véhicule qui sera l'iPhone killer, donc la Tesla killer, d'une certaine manière, et on voit bien qu'ils n'arrivent pas complètement à penser l'électrique de A à Z. Si vous achetez une ID3 aujourd'hui, comment vous faites pour voyager ? C'est vraiment compliqué. Ionity a un réseau, ok, d'accord.
Donc, c'est pas trop la technologie du véhicule, c'est plus tout l'écosystème qu'il y a autour, à ton avis, qui va pas.
Et une partie des technologies aussi.
C'est des bornes de recharge, etc.
C'est la confiance que le conducteur peut avoir quand il achète aujourd'hui un véhicule électrique pour le recharger n'importe où. C'est pas si évident que ça.
Mais ils vont arriver à faire cette transformation.
Mais c'est tout le problème. On est toujours aujourd'hui dans une perspective, alors qu'il y a un acteur
Peugeot,
qui est
Renault,
déjà installé.
Par exemple, ils accélèrent sur l'électrique.
Ouais, mais vous les voyez installer un parc de recharge aujourd'hui ?
Enfin, je crois que Peugeot a dit qu'il ne voulait pas investir justement sur ce segment-là.
Alors après, il y a plusieurs. Là encore, il y a plusieurs options qui vont se présenter, notamment, et Tesla le savent, il va bien falloir à un moment qu'ils rendent compatible leur réseau de superchargeurs avec les autres véhicules. Ça va être une obligation. Ça sera une obligation, et c'est logique. Il y a un moment où il va falloir qu'ils s'ouvrent à ça. Donc aussi qu'ils puissent dimensionner leur parc de recharge à recevoir d'autres voitures électriques, ce qui n'est pas évident non plus. Mais enfin, ils vont le faire. C'est vrai, mais est-ce que, par exemple, Peugeot, Renault, Mercedes peut se reposer uniquement en disant « Écoutez, vous avez différents acteurs qui font de la recharge, puis vous allez chez eux. » Aujourd'hui, ça paraît compliqué. Aujourd'hui, si vous achetez une voiture électrique et si vous voulez avoir l'esprit en paix, vous achetez une Tesla. Parce que vous avez l'intégralité de la chaîne qui fonctionne. Vous avez les softwares. Aujourd'hui, le software d'une Zoé ou d'une 208, très en dessous de ce que propose Tesla. Très en dessous.
En revanche, Tesla, pour l'instant, c'est un marché qui est taillé pour les États-Unis, pas pour l'Europe. On a de grosses voitures, un peu patapouf. Tesla à Paris, c'est nouveau.
Mais c'est vrai que c'est pas de la voiture urbaine.
C'est la voiture californienne,
c'est pas de la voiture urbaine.
Qui se garde sur des grandes places et qui roule sur des grandes routes.
Oui, c'est fait pour. Voilà.
Mais Elon Musk est conscient de ça. Et visiblement, il y a dans les cartons une voiture Tesla spécifiquement fabriqué et conçu pour le marché européen.
Et en fait, Tesla est en train de s'adapter petit à petit aux spécificités locales. Il y en a pour la Chine, par exemple, Tesla 3.
Une usine qui a ouvert.
Voilà, il a construit une gigafactory à Shanghai et il y a des adaptations au marché chinois qui sont faites sur la Tesla 3. Et sur le marché européen, qui est un marché très important pour Tesla, qui vendait très bien en Scandinavie notamment, mais pour en effet vendre sur des urbains européens qui vivent à Paris, Barcelone, Londres, et qui ne sont pas réputés pour la largeur de leurs avenues, on va dire.
Qui ne sont pas forcément auto-friendly, quoi.
Qui ont un patrimoine historique à sauvegarder et qui donc voient la voiture un peu comme un adversaire ou un ennemi. Il faut une petite voiture, il faut une 3 places ou une 4 places, une petite voiture qui soit capable d'avoir l'agilité pour circuler dans ces... Et ils ont annoncé en effet que ça serait un projet... Alors, pour l'instant, on n'en sait vraiment rien d'autre que la déclaration de Musk qui a dit « Oui, on travaille sur un véhicule comme ça vers 2024-2025 ». Donc, on n'est vraiment pas encore... On ne sait même pas à quoi elle ressemble, cette voiture-là. Mais on sait qu'en revanche, elle aura les caractéristiques d'une Tesla, c'est-à-dire d'une vraie voiture. Ce qui manque aux petites électriques actuelles. C'est-à-dire une voiture que vous pouvez prendre et emmener n'importe où. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les petites voitures.
C'est comme un petit iPhone, en fait. Pour revenir à l'analogie, l'iPhone mini, quoi.
Il faut développer la gamme d'iPhone, ou il faut développer la gamme de Tesla, et il est logique d'aller vers des voitures qui sont des voitures urbaines, tout en étant capable de sortir de la ville. Ce qui est la difficulté des voitures électriques, parce que pour les gens qui ne savent pas exactement, mais une voiture électrique, c'est l'inverse d'une thermique. Ça déteste l'autoroute.
Oui.
C'est
sur l'autoroute. Le rendement est horrible.
C'est sur l'autoroute que vous consommez le plus d'électricité, parce qu'il faut que la batterie donne d'elle-même continuellement. Alors que vous êtes en cycle urbain, les voitures en cycle urbain électrique consomment quasiment rien. C'est formidable. En urbain, vous pouvez rouler autant que vous voulez quasiment. Donc, il faut faire des vraies voitures, c'est-à-dire qu'ils soient capables d'aller sur l'autoroute, mais en même temps en ayant une dimension relativement réduite pour être agile dans les rues de nos vieilles cités européennes.
Emmanuel, merci.
Je t'en prie.
Passionnant tout ça. On verra si Apple se lance sur le marché de l'automobile dans les années qui viennent. Ton avis, quel quelle période ?
En 2025.
2025. Allez, les paris sont lancés. Tu reviendras nous voir avant ?
Oui, même, bien hein, sûr, bien sûr.
2025, c'est pas tout de suite. Hein. Merci beaucoup, Emmanuel. Un vrai plaisir de te retrouver, fondateur d'Electron Libre et journaliste, bien évidemment. Ce De quoi je me mêle est terminé. On sera là la semaine prochaine. Merci de nous suivre. Et puis, n'hésitez pas, hein, si vous êtes un fan de techno, sachez que je vous retrouve avec beaucoup de plaisir tous les soirs sur BFM Business dorénavant, entre 20h et 22h pour Tech & Co. Voilà, pour prolonger un petit peu ce rendez-vous De quoi je me mêle que vous connaissez peut-être. À très vite, on sera là la semaine prochaine en tout cas.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.